ce cinéma. Vous trouvez ça normal?
C'était la fin, hein, du morceau.
Il n'y a pas que la musique. L'émission dans laquelle on parle un peu de musique et beaucoup de cinéma.
Je me méprise, le cinéma.
Écoutez, mon Dieu, ça suffit comme ça. Emmenez votre âme se calmer ailleurs.
Sur Radio Esperanza. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette troisième émission déjà de Y'a pas que la musique sur Radio Esperanza.
Et ce soir on a soif de découverte. Ce soir on a envie de se mettre quelque chose sous la dent.
Et quelque chose d'assez indigeste finalement puisqu'il s'agit de la condition des agriculteurs aujourd'hui.
Des agriculteurs qui tentent de se maintenir la tête hors de l'eau alors que le monde agricole est frappé de plein fouet par la crise.
La crise, mais aussi la mondialisation, les dérives néfastes du marché libéralisé, la mainmise de l'industrie agroalimentaire, la course à la concurrence aussi.
Oui, chaque jour en Belgique, c'est une ferme et trois agriculteurs qui disparaissent. 3000 chaque année, 55% des agriculteurs seront pensionnés dans 10 ans.
On est donc loin du bonheur et dans le pré, vous voyez, on serait plutôt dans l'esprit « ferme-la ou crève ».
Sauf que l'électrochoc des consciences est enclenché. Tout le monde commence un peu à flipper de ne plus rien avoir à bouffer au petit déjeuner.
Sauf que la relève semble se pointer de plus en plus de jeunes et de moins jeunes qui veulent réinstituer cet art de faire et cet art de vivre émerge. Redonner ses lettres de noblesse à la profession d'agriculteur.
Et la relève, c'est aussi les gens qui en parlent et ceux qui en parlent avec un certain brio. C'est le cas de Charles Culot et Valérie Jiménez. Dans leur pièce « Nourrir l'humanité », c'est un métier qui a attiré les foules. Cet après-midi, malgré le soleil au zénith, ça s'est passé dans la grange côté cinéma à Esperanza. Et il y avait vraiment un monde fou. Tout le monde d'ailleurs n'a pas pu rentrer. Charles, Valérie, bonsoir.
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 Ça arrive souvent qu'il y ait autant de monde comme ça pour votre représentation. C'est pas la première fois que vous la jouez. C'est un succès comme ça, vous y attendiez?
On vient de jouer pendant un mois au Festival d'Avignon et c'est la chance que ça soit complet pendant un mois. Donc c'est vrai que il y a énormément de gens qui viennent voir le spectacle.
Oui, là on était dans la forme tout terrain au Festival Esperanza. C'est la première fois pour le festival apparemment qu'ils accueillent une pièce de théâtre en interne dans un lieu. Bon, c'est pas facile parce que évidemment il y a beaucoup de bruit, même des concerts pas très loin, donc on entend beaucoup de choses, etc. Là, effectivement, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a eu énormément de monde. On ne s'attendait pas, il y avait une énorme file apparemment devant l'entrée. Et j'ai dû sortir pour aller dire aux gens, voilà, si vous voulez rentrer, sachez les conditions qu'elles sont. Artistiquement, vous n'aurez peut-être pas tout à votre goût, vous ne serez peut-être pas bien mis, le son, etc. Mais j'ai dit pour le message, je suis obligé de laisser rentrer tout le monde. Et après avoir prévenu les gens seront bien rentrés, quoi. Il n'y a pas de problème. Ah, voilà, on est à la ferme, vous avez entendu.
Donc c'est un sujet qui touche...
Non, c'est mes clés.
Oui. Les poules sont avec nous, les poules ou les canards. C'est un sujet qui touche qui mobilise, mine de rien. On est dans un festival engagé, mais c'est plutôt rassurant. Vous y croyez, vous, en tout cas.
Oui, tout à fait, en effet. Donc nous, ici, il y a 10 ans d'ici... on ne parlait pas autant d'agriculture, on ne parlait pas autant de notre alimentation, autant de notre état de santé, autant de... La préoccupation que les gens avaient pour ça était beaucoup plus faible, moindre. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, des jeunes qui veulent reprendre le métier alors que ce n'est pas facile. On voit qu'il y a vraiment un intérêt de retourner aux sources et de pouvoir réobtenir une autonomie alimentaire, une vie rurale dans les villages, enfin, le monde qu'on veut pour demain. Donc ça, c'est très, très encourageant puisqu'on voit que les gens s'intéressent à ça. Donc c'est vraiment qu'ils veulent changer quelque chose dans le fond. Et on le voit parce qu'en effet, oui, on a de plus en plus de monde à notre pièce, de plus en plus de gens qui restent pour les débats après, et ça dure de plus en plus longtemps. Et on espère continuer comme ça, propager le message partout, dans les écoles, etc., et de continuer ce travail-là, quoi.
Si on revient un petit peu au commencement de la pièce, c'est quelque chose, c'est une démarche très personnelle, en fait, surtout pour toi, Charles, qui est fils d'agriculteur, je pense, et c'est un scoop pour personne. Tu le dis dès le début de la pièce, de la présentation, et je vous propose d'ailleurs d'écouter le tout début de la pièce. C'est un enregistrement qui a été capté au Théâtre National. C'était l'an dernier, je pense, pendant le Festival des Libertés.
On est passé deux fois à deux reprises au Festival National, enfin au National, en 2014 et en 2015, à deux reprises.
Alors on écoute la genèse de cette pièce, Nourrir l'humanité, c'est un métier.
Un jour, on m'a mis au défi de réaliser une œuvre artistique qui m'était nécessaire de porter aujourd'hui sur scène. Je suis fils d'agriculteur, j'ai grandi en campagne. Et ça m'a fait rappeler une phrase qu'un jour un agriculteur m'a dit. Charles, l'écart entre les citadins et les ruraux est de plus en plus important. Alors j'ai pris ma petite caméra et je suis parti à la rencontre des agriculteurs à la recherche de témoignages. Je suis rentré dans les fermes, aux alentours de chez moi d'abord, dans les Ardennes. C'était ça, ma nécessité, rendre ces paroles paysannes.
Oui, donc un départ, vraiment une volonté de documenter une réalité compliquée. Comment ça s'est passé concrètement ? Donc, on voit beaucoup de scènes filmées. Vous êtes tantôt acteur, vous retransmettez les propos entendus. Tantôt, ces propos sont dévoilés comme ça sur écran. Comment ça s'est passé, cet engrangement d'idées ?
Donc, au départ, comme Charles l'évoque, donc c'est une nécessité. Il s'est rendu compte qu'il y avait un malaise autour de lui dans le milieu paysan, et autour de sa commune. Et donc, il avait ce travail de fin d'études à réaliser au sein de les actes, le Conservatoire de Liège. Il a commencé à filmer quelques-uns de ses familles d'agriculteurs. Et moi, par après, je l'ai accompagné. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu. Les rushs, et je ne connaissais pas du tout, un petit peu cette réalité, mais vraiment très très mal. Et donc, du coup, on a continué à ce travail de terrain, d'interview. Et moi, cette conscientisation, elle s'est faite au fur et à mesure, et c'est vrai que ça a été très marquant, puisqu'on rentre dans l'intimité de ces familles avec toute cette réalité qui nous saute au visage. Donc, en tout cas, voilà, c'était.
On est dans une forme très particulière de théâtre, entre, vous appelez ça, je pense, du théâtre documentaire, entre aussi presque un reportage qui se joue là en direct devant nos yeux, parce que c'est tous des témoignages que vous rapportez, et aussi presque dans une démarche d'éducation permanente, enfin même pas presque, complètement dans une démarche d'éducation permanente.
Alors oui, donc ça se déroule, il y a trois axes. Il y a l'axe, bien sûr, nous avons directement envie de travailler avec du matériel documentaire, avec de la réalité. On a été chercher sur le terrain, donc il faut un écran dans la salle pour pouvoir voir les agriculteurs en chair et en os, enfin, si je peux m'exprimer ainsi, sur le film. Il faut qu'ils soient présents, ils introduisent très bien, ils donnent du cachet, etc. Il y a cette forme-là, nous. Il y a la forme où nous, jeunes, nous allons interpréter les agriculteurs pour faire écouter sous une autre forme. Nous sommes au théâtre. Les accents de ces agents que nous interprétons, les mimiques, les rires, les gestes, les mouvements, les respirations, tout ça est étudié millimètre par millimètre. Donc ça, c'est une forme d'imitation du personnage ou d'interprétation du fermier ou de la fermière, de l'agricultrice qu'on a rencontrée.
Un peu une écriture de réel.
Voilà. Et donc ça a été sélectionné parmi une quarantaine d'heures de rush. Et donc on imite les personnages. Des fois, on s'arrête et hop. Après, on continue, on reprend un autre personnage, un autre accent, un autre endroit, un autre problème. On aborde comme ça divers problèmes, espoirs, le futur des agriculteurs, c'est quoi le questionnement aujourd'hui dans le monde agricole à travers tous ces couples. Et le dernier axe, c'est nous, en tant que jeunes citoyens, qui venons porter ce message, comme on vous l'avait fait écouter aussi au début de l'émission. Voilà, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on veut dire sur notre monde, nous, aujourd'hui, en tant qu'acteurs, en tant qu'artistes, à quoi on peut servir. Et le troisième axe, c'est nous, notre parcours dans cette aventure, comment les rencontres avec les agriculteurs nous ont transformés, agissent sur nous, comment elles nous ont obligés à ouvrir les yeux, à aller s'informer plus loin dans l'économie, voir comment ça fonctionnait, voir les problèmes alimentaires, voir la spéculation. Voilà, de documentaire en documentaire, de spécialiste en spécialiste. On ouvre les yeux, on devient indigné par ce qui nous se passe et on essaie de communiquer au public notre indignation vis-à-vis de ça. Et toujours en passant par nous, notre trajet. Et ce qui permet de faire en effet ouvrir la pièce plus loin que l'agriculture, mais aussi dans un débat citoyen plus profond sur la réappropriation de ce que l'on mange, de quel monde on veut. de quelle agriculture voulons-nous, de quel emploi, enfin de quelle vie voulons-nous. Et alors voilà, il y a vraiment ces trois axes, imitation, porte-parole personnelle en plein milieu du spectacle et l'écran. Donc voilà. Et la scéno, bah, très simple, la cuisine. L'endroit où on les a rencontrés le plus souvent, la cuisine qui vit avec eux, la cuisine qui, quand tu te lèves le matin, est là, quand tu passes à 2 heures, est là. Tout le monde se rencontre là, donc ça a été le symbole que nous avons choisi, même si on en a rencontré également dans leur ferme, au travail. Les interviews se sont passées à moule d'endroits différents et dans la situation.
Une table de chaises qui permet aussi une formule tout-terrain qui peut s'adapter à des écoles en formule voilà, éducation
c'était
permanente.
C'était vraiment une volonté de la compagnie Arezza qui... Vraiment, dans tous ces spectacles, se pose la question, et Valérie, bien sûr, elle-même aussi, puisqu'elle en fait partie, de comprendre, analyser, critiquer notre société et communiquer nos réflexions dans nos créations par une forme artistique qui nous soit singulière et propre. Donc, c'est comment ramener aujourd'hui sur le terrain une dialectique entre être au théâtre, amener du divertissement, mais aussi également apprendre une situation, la fouiller, ne pas juste donner la constat d'une agriculture, mais aussi la fouiller nous-mêmes avec comment est-ce qu'on peut donner des outils au public pour qu'ils s'en sortent et qu'on prenne finalement que ce spectacle n'est finalement qu'un... Même s'il est très humain et qu'il passe tout par là, ça reste une critique du capitalisme sous le prisme de l'agriculture. Mmh. Voilà, et ça aurait pu être fait avec beaucoup d'autres choses. Et alors on essaie toujours de prendre sous cet angle-là, et c'est pour ça que nous travaillons avec des assos, des ONG, des professeurs, des écoles, pour essayer d'aller plus loin. Et on essaie de travailler aussi étroitement avec les politiques, on essaie de leur montrer ça, de faire des débats après avec eux. C'est pour ça qu'il existe cette forme tout-terrain avec laquelle nous sommes complètement indépendants. Nous allons dans les villages, les fermes, les écoles, comme vous avez dit. On a déjà été jouer chez les vétérinaires, dans les amphithéâtres de théâtre pour les étudiants, suite à la demande de quelques-uns. Et nous allons aussi jouer
dans... Le service public aussi, on a été...
De Wallonie, c'est vrai.
Voilà,
c'est...
Donc ça a été
donc, on essaie
aussi
de
important.
Très large. Donc la forme tout-terrain existe. Et puis on a la forme pour le théâtre, qui est elle est par contre un peu plus artistique pour le coup. Il y a de la terre sur le plateau, il y a des ballots de paille, il y a des scènes qui se passent dans le sud de la France. C'est voilà, ça plus ou moins le même temps, mais c'est plus artistique, etc. Mais donc c'est pour un autre lieu, pour permettre la visibilité à cette pièce à plus de 200. 300 personnes. Quoi. Voilà.
Avant peut-être de revenir sur les enjeux multiples que vous abordez dans la pièce, moi je voulais savoir si vous l'aviez joué dans des milieux ruraux, comment ça avait été reçu, parce que les agriculteurs sont, bah, sont parfois des personnes humbles, enfin, il y a une humilité, une timidité, mais qui vient plus d'une humilité peut-être. Voilà, c'est une double question en fait. Comment ils ont accepté que vous les filmiez, etc. Et puis comment ils ont reçu cette pièce de théâtre.
Bah, par rapport à ça, donc on a énormément joué en milieu rural. Et le retour qui nous a été fait, c'est que bah, pour eux, c'est une pièce très réaliste et non pas pessimiste. Donc on a Jacques, un des agriculteurs qui a été interviewé, qu'on voit au début du spectacle, dit bah, vous êtes un peu nos ambassadeurs. Et c'est vrai que la parole se libère pour eux, dans le sens où bon, on a commencé ce travail d'interview avec Charles, qui les connaissait au départ, donc il est issu du milieu agricole. Si moi, j'avais fait seul le travail, n'étant pas du milieu agricole, peut-être que ça aurait été différent au niveau d'une... Mais en même temps, je veux dire, la nécessité est là de dire les choses, il y a une urgence. Et donc, d'être à l'écoute, d'avoir cette attention, d'aller vers eux et de prendre conscience de ces difficultés, je pense que voilà, il y a... Il y a vraiment une, voilà, cette parole qui a pu se libérer. Et nous, maintenant, on peut la transmettre à tous les citoyens qu'on rencontre et aux spectateurs.
Moi, ils sont très contents. Là, quand on l'a joué la première fois, ils sont tous venus à l'école quand j'étais étudiant à l'ESACT. Et ils sont tous serrés dans les bras à la fin. Ils ont tous été mangés au resto. En fait, ils savaient qu'ils avaient des problèmes communs. Mais là, on est tous dans le même bateau, encore une fois. Et il y en a beaucoup qui reviennent parfois après des pièces, juste pour être là au débat et pouvoir s'exprimer avec des citoyens qui ont été touchés par ce qui vient de se rencontre et qui sont prêts à la discussion et qui sont prêts à qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est pour ça que la pièce a été créée. Nous avons vraiment voulu faire cette pièce et toutes les pièces de la compagnie Arezza, quelles qu'elles soient, sur le milieu de l'éducation, le milieu scolaire, etc., sont vraiment des tremplins au débat. Et après, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'après, c'est vrai que si des gens disent bah, c'est pessimiste, on sait que ça ne va pas, bah, c'est pas grave. Parfois, c'est une piqûre de rappel. Parfois, c'est rappeler les nécessités, etc. Et puis après, on a un débat toujours qui est là, parce qu'on ouvre sur les espoirs, mais après, on n'a voulu volontairement pas encore rajouter une demi-heure au spectacle avec tout ce qui est possible de faire, parce qu'on est là pour en parler dans le débat. et dire qu'il y a moyen d'avoir des groupements d'achats communs, qu'il y a moyen de s'investir dans sa commune. Il y a des associations comme Terre en Vue, Terre de Liens en France, qui existent pour aider à l'accès à la terre, qui a moyen de se mobiliser contre des traités transatlantiques, le TTIP. Il y a des associations qui le font, il y a moyen de faire pression sur nos élus locaux, il y a moyen d'aller appeler nos bourgmestres pour mettre de la viande locale dans les cantines. Enfin, on ne se rend pas compte de quel pouvoir nous, on a en tant que citoyens, qu'ils soient petits ou grands. Ça va du droit de vote à la consommation, à ce qu'on fait, ses actions, comment on parle aux gens. Je veux dire, on est tous des journalistes, tous capables de convaincre. Si on est convaincu, on peut faire changer les choses. Et nous, modestement, à travers une pièce de théâtre, média pas trop censuré encore, on peut encore pouvoir apporter des messages. Et tout le monde est réuni, donc on est prêt pour un débat après. Et se mettre au service des associations, des acteurs locaux, pour faire avancer le débat avec une triangulation entre la société politique, la société civile et les mouvements citoyens, pour essayer de faire changer ça, parce que il est bien temps.
Et je me souviens qu'en 2012, après une représentation, il y a un représentant du monde agricole, donc c'était la FUGEA, et du côté des métallos, c'était monsieur Nico Cuet.
FUGEA, pour les gens qui nous écoutent,
donc c'est
un mouvement de défense
voilà,
des paysans.
C'est les jeunes éleveurs.
Non, c'est le syndicat minoritaire, c'est la Fédération unifiée des éleveurs et des
qui bosse parallèlement avec le MAP aussi.
Parallèlement avec le mouvement d'action paysanne. Donc ça, ce sont les mini syndicats et puis un gros syndicat agricole majoritaire qui s'appelle la FOA, la FNSEA en France pour ceux qui connaissent, qui eux, ont beaucoup plus de pouvoir, qui font partie de la COPACO-GEGA au niveau européen, hein, qui ont des étroits liens avec l'agroalimentaire. Mais bon, ça, on pourra y revenir si vous voulez.
Et du coup, après une représentation, un des représentants de ce syndicat-là et Nico Cuet, donc des métallos, se sont retrouvés et ont envie de créer un mouvement. Enfin, voilà, ça a été
acteur
des temps présents par après. Après, il y a eu le D19-20. Donc, je ne dis pas que c'est grâce à la pièce, ce n'est pas ça, mais disons qu'il y a eu des rencontres autour de différents pôles de syndicats, etc.
Il y a eu plein de choses. Les commissaires sont déjà venus, ils ont déjà vu la pièce. Le ministre Collin de l'Agriculture de Wallonie, après avoir vu la pièce à Marchand-Famène, à parler avec nous, etc. Il s'est engagé devant toute la salle à être contre le traité transatlantique, ce qui fait que dans le gouvernement, maintenant wallon, on peut espérer avoir une vraie chance d'avoir un nom. Donc voilà, bon, toutes les choses bougent. Je dis pas, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Vous, journalistes, vous apportez votre pierre à l'édifice. Le technicien, le régisseur à la régie apporte sa pierre à l'édifice, sinon on ne nous entendrait pas. Nous, on est là, on a un moyen, il y en a d'autres qui se battent sur le terrain, on est de plus en plus, et c'est ça qui est important à relever, quoi.
Et récemment, donc, il y a un peu moins d'un an, on a rencontré Raoul-Marc Génard donc, lors d'une conférence sur le grand marché transatlantique. On lui a demandé s'il voulait intervenir après une représentation. Il nous a suivis déjà quand on a joué à Paris. Puis il est venu à Avignon à deux reprises donc, pour faire sa conférence et en parler après. Donc c'est aussi des gens qui militent et qui ont suivi aussi...
spécialiste du traité. Hein.
Donc c'est quand même très important au niveau citoyen parce qu'il y a vraiment un relais qui suit.
Voilà, aussi. On permet de montrer ces gens-là, même s'ils savent très bien le faire tout seuls, en avant. C'est-à-dire que ce qui se négocie entre la Commission européenne et Obama au niveau du traité transatlantique est un dossier qui n'existe qu'en anglais, dans un langage diplomatique. Et vous imaginez bien qu'est-ce que ça veut dire des mots au niveau de l'échelle des traités internationaux, ça n'a plus rien à voir avec ce que nous, on peut le mettre. Et lui, il nous a décodé tout ça en français dans les 46 articles et il a dit que, selon lui, on encadrait ce que ça veut dire. Alors bon, voilà, il nous avait laissé 50 bouquins, ils sont partis en deux représentations, mais c'est ce genre de choses. On peut aider les assos qui ont des messages importants à faire passer. Et voilà, je pense que le théâtre est un moyen et je pense que tout artiste, aujourd'hui, commence à se rendre compte qu'il faut se mêler un peu de la société et que la société au théâtre aussi intéresse les gens. Il n'y a pas que le divertissement. Même si c'est important, il faut tout pour faire un monde.
Mais justement, on se rend très très bien compte du poids du théâtre avec cette pièce Coup de poing. Et c'est peut-être la dernière question sur la forme utilisée et le ton. Après, on passera vraiment aux difficultés et aux problèmes des agriculteurs aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, je regardais les nombreux visages des gens qui vous écoutaient. Et c'est des visages défaits, des visages atterrés. On a l'impression vraiment que c'est une vision très pessimiste de la chose. Et vous, vous dites... réaliste, je me demandais dans quelle mesure vous aviez 40 heures de rush, forcément vous avez fait des choix, dans quelle mesure vous n'aviez pas un peu durci le trait pour justement forcer la réaction et le débat après et tout ce dont vous avez parlé.
En tout cas, je le répète, moi qui connaissais très mal ce milieu-là, en tout cas dans les couples qu'on a rencontrés, j'ai vraiment senti une détresse, alors voilà. Certains ont répondu à l'Europe, ont été écrasés par le système et ont beaucoup de difficultés à en sortir. Il y en a d'autres qui ont fait des transitions, donc il y a un message d'espoir. Mais avec ce témoignage-là, où ça a été quand même difficile de faire cette transition, parce que parfois on est tout seul. Donc là, c'était un couple en l'occurrence, donc ils ont pu le faire. Mais on parle des alternatives aussi. À la fin, on donne aussi ce message d'espoir où il y a énormément de mouvements.
Le débat est là citoyens, pour ça. Voilà. Moi, je pense que le débat est là pour ça. La pièce est là pour faire un constat d'une agriculture dominante en Belgique, en France, mais aussi en Europe, puisqu'on dépend tous de la politique agricole commune aussi, mais dans le monde, on va dire. Et la pièce est vraiment un constat pour faire la majorité de ce que la majorité des agriculteurs vivent. C'est vraiment ça l'objectif. Alors oui, moi j'aurais voulu rajouter une demi-heure, mais il faut une demi-heure au spectacle pour parler aussi des alternatives. On les évoque, mais elles sont là pour être dites dans le débat. Et il vaut mieux parfois secouer les gens que l'amour est dans le pré, ça existe déjà. Donc voilà, maintenant je tiens à dire que on ne se rend peut-être pas compte parce que nos rayons sont toujours bien pleins, bien fournis et bien remplis. Comme dirait un agriculteur, mais la situation est très... On ne se rend pas compte à quel point ça peut être urgent. On ne se rend pas compte, parce que c'est-à-dire que, quoi qu'on en dise, on perd quand même 3000 emplois dans le milieu agricole chaque année en Belgique. Quoi qu'on en dise, en agriculteur, en France, ça n'arrête pas. Un suicide tous les deux jours d'agriculteur, c'est la norme. Quoi qu'on en dise. Alors, il y en a qui arrivent évidemment dans la misère toujours à s'en sortir. On voit tous ces jeunes qui veulent reprendre sur un hectare, etc. Et c'est génial, il le faut, c'est notre souveraineté alimentaire. Mais laisser à volo, partir à volo toutes les terres pour agrandir les autres fermes, c'est un système, on voit vers où ça pourra nous mener. Moins d'emplois, moins de bien-être, plus de concentration d'exploitation. Quel monde on veut encore pour demain? Et l'urgence peut être là quand on sait qu'aujourd'hui, parce qu'après on pourra aller plus loin dans ces scénarios catastrophiques, mais je veux dire, l'urgence climatique est là, on a été en France, il n'y a pas d'eau. Comment est-ce qu'on fait? Il y a le barrage de Sivens, des jeunes qui veulent reprendre une agriculture durable, qui se font tabasser par des autres agriculteurs qui sont eux-mêmes victimes d'un système, ou qui sont dans un système conventionnel, où ils veulent prendre du maïs, parce que le maïs, c'est ce qu'on a vendu aux agriculteurs dans les écoles d'agriculture pour ce qui est du céréal, etc., la protéine végétale, etc. Cette semence demande énormément d'eau, le maïs. C'est pas fait pour des régions comme ici. C'est importé des grandes firmes de l'agroalimentaire qui ont tout intérêt à vendre les graines, les produits qui vont avec et qui sont énormément présents dans les conseils et les lobbies au Parlement européen. Parce qu'on pourra revenir sur l'Europe et le rôle de l'Europe qu'elle a joué. Une poignée, il y a Monsanto, Bayer, BASF. Il faut savoir que voilà, c'est la spéculation alimentaire à l'armement, c'est ce qui concerne le plus de trucs. Et donc, pour finir avec ça, on voit qu'ils sont tellement dans un système comme ça, c'est difficile. Ils ont tout leur investissement qui est fait pour le maïs, qui est fait. Bon, je prends l'exemple du maïs, mais on pourrait prendre les gens qui ont investi massivement dans le poulet. Enfin, ils n'ont qu'un seul. Ils sont payés par le prix du marché. Donc, le prix du marché, il a tout intérêt à une chose, c'est qu'avoir un prix très bas pour être compétitif et inonder et tuer les autres agricultures du monde. Parce que quand on exporte, malheureusement, ça fait ça aussi en Afrique. On pourrait revenir sur le rapport Nord-Sud. Nos collègues de 11-11-11 connaissent très bien le débat. Mais on voit bien qu'en gros, tout est pensé pour le profit de quelques-uns. C'est pas l'agriculteur au nord qui gagne, il est étranglé par les prix. C'est pas l'agriculteur au sud qui gagne, il est étranglé parce que la production vient moins cher de chez nous, les œufs, les poulets qui sont dégelés en Afrique et que les agriculteurs africains ne savent pas concurrencer. C'est la firme qui entre les deux qui gagne. Donc, c'est quel monde voulons-nous? Puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus de riches, de plus en plus de pauvres et de moins en moins d'emplois. Donc, quand on entend tout ça et qu'on prend en question plus largement, en sachant quand même qu'il y a toujours 18 000 enfants qui meurent de faim chaque jour, qu'il y a des milliards de gens qui souffrent de la malnutrition dans le monde, alors qu'il y a assez de nourriture et qu'on la gaspille et qu'on tue notre planète avec ça, avec un système complètement fou qui fait venir des oranges bio de Palestine. Ben voilà. On est vraiment. Donc, il faut. La solution, elle sera locale. Et c'est en ça que c'est important. On a déjà dépassé le pic du pétrole. Comment va-t-on faire demain? Est-ce qu'on va se barricader chez nous, attirer avec des murailles sur les immigrés qui veulent monter? Parce qu'on n'a pas parlé aussi du réchauffement climatique et de tout ce qui pourrait se passer dans les pays du Sud. Donc voilà, la situation, c'est tout relatif quand on dit que c'est pessimiste, parce que je pense que pour certaines personnes, c'est pas encore assez réaliste du point de vue dramatique quand on voit l'état des scientifiques aujourd'hui qui observent le climat. Maintenant, nous, notre objectif, c'est de donner en effet une porte de sortie et en effet de foutre la claque nécessaire pour que les gens se réveillent, mais je pense qu'on force même pas le trait.
Et par rapport aux alternatives dont on parle, souvent on nous dit, mais qu'est-ce que c'est à construire? Ces alternatives, on est en transition, on est dans une période en transition, tout est à faire et tout est à construire. Donc on n'a pas forcément toutes les réponses, mais il y a des mouvements petit à petit qui se mettent en place, il faut les suivre et essayer de voir comment, au niveau européen, comment ça peut grandir. Mais
parmi ces alternatives, les potagers collectifs qui naissent en ville, par exemple, et que nous chante Pang, featuring, je ne l'ai plus sous les yeux, Monkey Mix, peut-être que vous les connaissez, des Bruxellois qui font du rap militant pour l'environnement.
Oh bah on va écouter ça avec plaisir.
C'est très joyeux, avant de revenir sur les drames qui se jouent au quotidien.
Dans la lutte, il y a toujours de la joie aussi. Hein. Exactement. Parce qu'on sait pourquoi on se réveille le matin aussi. Hein.
Donc on écoute Pang.
C'est chacun sa parcelle et on ramasse l'oseille. Alors retiens ce conseil, si t'es pas à Marseille, BXL, ouais c'est Bruxelles, BXL, ouais c'est Bruxelles. Avec nos potagers, on inonde les marchés. Viens accompagner car on va te faire planter. On plante des choux, est-ce que ça dit? Je fais pas le mou, ce sera les radis. Dans mon hood, on pratique la permaculture. Une tech de ouf, inspirée de la nature. Insulte pas la terre, mec c'est ma mère. Observe-la bien, jamais plus t'auras faim. La paille et la forêt ont été mises dans le cou. Les fourmis et les abeilles ont toutes rejoint nos trous. La seule limite à ta production, mec, non que c'est pas le site, c'est ton imagination. Fais donc les liens, les interconnexions. Tu vas voir tout vient, et ce à profusion. Pas de pesticides, ni engrais chimiques, non. Pas de tracteur, ici on a des bourriques. Si tu fais ta bête ou ton petit marrant, ici tu pousses des bêtes et des petits marrants. Yo, c'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qu'il fait être à Walpé? Demande ta camarade et tout le monde soit poireau. Personne qui parle, personne qui reste le carreau. C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qu'il fait être à Walpé? Tout le monde soit cochon et tout le monde soit poilé. Et même sans la roue, personne ne reste sur le côté. Mais ça c'est quoi? Mais boy, je sais pas, j'ai jamais entendu parler de ça. TSP. Mais ça c'est quoi? Attends, je vais t'expliquer le mode d'emploi. TSP, c'est le toilette sèche power. On chie pas dans le potable mais dans la sueur de bois. TSP, c'est le toilette sèche power. On a fait le choix de plus gaspiller ta quoi. TSP, c'est le toilette sèche power. Tu vis ça dans un coin et tu verras, ça sent même pas. Étape 1, t'arrêtes les couches et tu passes au bout. Étape 2, tu montes sur le trône, c'est déjà bien haut. Étape 3, tu t'essuies tout seul, tu tires la chasse. Étape 4, t'arrêtes à chasser, t'adoptes le saut. Le caca dans l'eau, c'est fini. Le plouf, c'est fini. Les fesses rouillées, c'est fini. Les Africains aiment ça aussi. En Asie, on l'a choisi. Au Maroc, tout le monde dit oui. À la campagne, à Paris, tout le monde l'apprécie. Si t'es dans ce caca, 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 alors rejoins le toilette sèche pour moi.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qu'il fait être à Walpé?
Tout le monde s'accarote et tout le monde son poireau. Personne qui porte, personne qui reste sur le carreau.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qu'il fait être à Walpé?
Tout le monde sont cochons et tout le monde sont bonnets. Et même sans avoir personne ne reste sur le côté.
Hey yo, peigne dans ta gueule, oui on sait recycler. Nous on mixe du tilleul et on bombe dans les prés. Je représente mon verger que j'ai gagné au tiers. C'est trop cool pour rien branler mais j'étais affamé. Alors j'ai eu l'idée d'apprendre à labourer. Planter mes poils de carottes et d'en récolter du blé. Pour des raisons alimentaires je cultive la terre. Me shoot au nucléaire mais je connais les affaires. Big up aux fruits, aux légumes, aux graines, aux pistils. Maintenant je prends des agrumes comme les dingues de Shaquille. Dimanche pile mon tracteur en mode gangster. La tête car à l'envers pour renifler la terre. Peng dans ta gueule, tu nous as reconnus. Les fermiers sont à genoux et les vaches dévêtues. J'en place une pour mon trou, les pesticides sauvages. On rajoute du goût, fais passer le message.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait être à Walpé?
Tout le monde t'a carotte et tout le monde sans poireau. Personne qui porte, personne qui reste sur le carreau.
C'est quoi notre quartier? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait être à Walpé?
Tout le monde sont cochons et tout le monde sont bonnets. Et même sans avant, personne ne reste sur le côté.
Je ne le supporte plus, c'est tout ce qui est administratif, quoi. Donc, la moindre chose qu'on veut faire, il faut demander 3-4 autorisations, il faut toujours être contrôlé, toujours se justifier. Ils veulent tout savoir. À la limite, la vie d'un veau, d'une vache, est plus suivie que la vie d'un humain.
La galère administrative des agriculteurs, parce qu'on pense beaucoup à brasser la terre, mais on pense pas en plus. Et apparemment, c'est pire pour eux, après avoir vu la pièce, c'est toutes ces fiches et ces formulaires à remplir.
Vas-y. Bah effectivement, ils sont... Donc, ceux qui ont répondu au système de l'Europe et aux primes, etc., ils sont un petit peu enchaînés. Et c'est vrai qu'ils ont un poids administratif. Hein, c'est invivable, quoi. C'est plusieurs fois par semaine. Donc, ils sont plus du tout... Enfin, ça devient plus le métier qu'ils ont forcément eu envie de faire au départ. Même s'ils adorent ce métier-là, ils sont... enchaîné dans ce système de paperasse.
Quoi. Et c'est tous, hein, c'est pas même pas ceux qui ont choisi de suivre l'Europe, c'est tous, ils sont obligés. Si tu veux vendre une production, tu dois avoir un cahier des charges. Ils sont très, très contrôlés, nos agriculteurs. C'est très bien d'être contrôlé en même temps. Mais il faut essayer de penser à une simplification. Mais ça, je pense que c'est tendable à beaucoup de problèmes, beaucoup de domaines, beaucoup de métiers, beaucoup chez les indépendants aussi, quand tu gères une entreprise. Mais eux, ils doivent faire beaucoup de choses. Tu dois être maître d'entreprise, avoir une compta, tu dois faire des grands investissements, tu dois être mécanicien, tu dois être agronome, tu dois aimer les bêtes. Tu fais mille choses, quoi.
Et il y a même ces contrôles sanitaires. Et les
l'AFSCA, par exemple. L'AFSCA, avec la ferme Unix du fromage de Herve, dernièrement, qu'on a entendu beaucoup dans les médias. On voit bien que maintenant, voilà, l'AFSCA, c'est l'Agence de sécurité alimentaire belge. Il y a l'AFSA au niveau européen. Par exemple, voilà, la tolérance à une certaine bactérie avant était tolérée. On ne sait pas pourquoi, du jour au lendemain, ça a changé, le règlement a changé. Tolérance zéro. Ben, les fromages au lait cru, je veux dire, si un fromage aujourd'hui se conserve, c'est quand même grâce à la bactérie que ça. Le vin, c'est pareil. Alors, à un moment donné, où est-ce qu'on va s'arrêter? Il est normal d'avoir un contrôle d'hygiène, etc., et que c'est important, mais est-ce qu'on n'a pas été trop loin? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de contrôler aussi l'hygiène énorme? Parce qu'il est évident que quand un lait a un peu de bactéries, quand tu le bois, ça va. Mais quand ton lait est destiné à faire le tour du monde, et que toute la norme doit pouvoir rester dans un bateau pendant des mois pour être exporté et tenir encore un an en brique, est-ce que c'est cette nourriture-là qu'on veut? Donc la norme a été aussi fixée quelque part aussi pour ce commerce de compétitivité mondiale dans le cadre d'un échange mondial. Donc il y a aussi, voilà, c'est très bien d'avoir... mais est-ce que l'AFSCA n'a pas été trop loin? Est-ce que les agriculteurs... En plus, les agriculteurs doivent payer aussi tout ce qu'ils font, hein, toute leur analyse, c'est eux. Donc à un moment donné, voilà, je pense... Et en plus, c'est contradictoire. Parce qu'ici, nous demandons une propreté zéro, ce qui est très bien. Mais alors, il faut donner le moyen de le faire et le pouvoir d'achat aux gens pour acheter une nourriture de qualité. Et on accepte, alors on interdit à nos agriculteurs de produire de manière pas bien, et on accepte des produits importés qui sont nourris à farine animale ou qui sont nourris à soja OGM, alors qu'on n'accepte pas de faire les OGM ici. Donc il y a carrément un non-sens dans cette Europe et dans cette Belgique par rapport à ce qu'on demande aux agriculteurs et ce qu'on permet tous les jours de manger à nos enfants dans les supermarchés. Les produits finis qui arrivent ici qui ne sont pas contrôlés. Donc il y a un gros problème à ce niveau-là. On demande aux petites fermes d'être aussi exigeantes que les grandes fermes. À un moment donné, c'est quelle société on veut, quelle nourriture on veut. Et si on veut avoir des anticorps demain pour arrêter d'avoir des allergies, parce qu'en Royaume-Uni, 75% des enfants sont hyper allergiques. Pourquoi? Parce que tout est stérilisé. Donc voilà, il y a aussi des problèmes de ce côté-là. On est de moins en moins résistants. On pourrait parler de ça pendant des heures.
Hein. Ah oui, comme dit Charles, il y a vraiment une absurdité. Voilà, on va condamner un producteur de fromage de Herve au lait cru. Il va arrêter sa production. Et en même temps, le Roundup est toujours autorisé sur le territoire. Donc.
Alors que le Roundup a été prouvé... Alors qu'on le sait depuis des années par des études indépendantes, que le Roundup est cancérigène énormément. Et ça a été prouvé, on ne l'interdit pas à la société. Il reste en vente. Hein. Bon, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a vraiment une justice pour les riches et une justice pour les pauvres. Et alors là, non, attention, la santé des gens, le petit Munich, là. Faire un fromage de Herve au lait cru, non, mais mon Dieu, c'est pas possible. Ça. Donc voilà, c'est vraiment. Je pense que voilà, le seul obstacle, c'est profit, profit et profit. Et ça, on pourra encore y revenir, mais je veux dire. La seule éthique des entreprises ou des lois qui sont faites sont pour la compétitivité, sans qu'on restera dans cette logique libérale, compétitive pour le profit de quelques-uns et au déprofit de tous les autres, je veux dire, on n'en sortira pas. Et il y aura de crise en crise, que ce soit du lait, des céréales, mais qu'elle soit aussi dans d'autres secteurs. Hein. Et l'éducation de nos jeunes, sur quelques générations, c'est vite fait. Donc c'est très, très, très important aujourd'hui de remettre ça au centre du débat. Quelle nourriture on veut pour demain? Quel monde on veut? Quel monde on veut?
Là, on est dans une analyse un peu... global, mais au niveau local aussi, et c'est une des premières phrases du spectacle, le lien n'existe plus entre milieu rural, milieu urbain, entre consommateurs et agriculteurs. Peut-être que c'est aussi avant tout urgent de restaurer ce lien pour engendrer une prise de conscience de ce que c'est un vrai légume, de ce que c'est... un vrai cochon de... Et là, je parle vraiment d'un... On est à l'échelle d'un village, on est à l'échelle d'une petite ville.
En milieu urbain, en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a de plus en plus d'initiatives qui se font. Donc au niveau des coopératives, au niveau des paniers, des marchés, des jardins collectifs, de la conscientisation. Il y a quand même pas mal de choses.
Ouais, la ville, ça bouge aussi. Hein,
ça bouge. Après, au niveau des campagnes... C'est ça, il y a un paradoxe, quoi. Il y a des contradictions. Parfois, quelqu'un qui l'accompagne va peut-être plus facilement aller au supermarché alors qu'il y a des fermes près de chez lui. Donc comment...
C'est vrai qu'on devrait parler dans le spectacle d'esprit rural. l'esprit rural ne rencontre plus l'esprit citadin. Mais quelque part, aujourd'hui, même les gens, comme dirait Valérie, qui habitent dans les villages, ils ne savent pas nécessairement ce qui se passe à la ferme. Ils ne s'y intéressent pas, ils n'y habitent même plus. Ce qui est bien le problème de la perte de vie dans nos villages, c'est que les campagnes deviennent quasiment des lieux dortoirs pour les gens de la ville. Et il y a urgence, si on veut être bien, est-ce que on va pas tous aller habiter en ville pour qu'il se passe quelque chose? Si on veut être bien dans nos villages, demain, il faudra des emplois ruraux, des agriculteurs, des artisans qui transforment le pain, et des gens qui font de autre chose. Hein. Il peut y avoir des studios de radio qui partent de village. Mais il faut de la vie rurale dans les villages. Et si on laisse les gens comme ça, tout le monde ira en ville. Et puis voilà, et je pense pas que tout le monde ait envie de faire ça. De toute façon, encore une fois, il faudra vivre dans le monde qu'on veut demain. Et la campagne a encore aussi un travail tout autant à faire que la ville. Mais on a perdu ça, on s'est fait éloigner un peu les uns des autres. Et c'est pour ça que c'est important d'aller au contact de nos agriculteurs, oui, voir comment ils travaillent, essayer de les comprendre. Et la pièce permet un peu de faire un état des lieux de tout ça.
C'est fou comme le mot urgence revient tout le temps, beaucoup beaucoup dans votre pièce, beaucoup beaucoup depuis qu'on a commencé l'émission et beaucoup beaucoup depuis le début du festival Esperanza cette année. On dirait vraiment que il est temps et voilà. Et pour revenir un petit peu sur cette histoire de mondialisation qui apparemment selon votre pièce n'a pas fait du bien aux agriculteurs, ce fameux combat de David contre Goliath et petite ferme versus grosse ferme, c'est quelque chose d'assez frappant aussi qu'on apprend dans votre pièce, c'est que finalement les aides financières pour les agriculteurs existent, certes, mais toujours dans un but de faire grossir son exploitation.
Elles sont orientées en tout cas vers là, même s'il y a eu des maniements, on va dire d'autres, mais non, la PAC a été repensée pour les petits. C'est faux, il n'y a pas eu de plafond au-delà de 300 000 euros. On sait très bien que le problème, c'est des aides à l'hectare, toujours des aides à la production pour qu'on produise plus, pour encore une fois être compétitif pour les entreprises, pour exporter, etc. Hein, on est toujours dans la même logique parce qu'on produit bien assez de lait en Belgique, bien assez de céréales, c'est pas la question. Le problème, c'est qu'il faut qu'on soit compétitif pour exporter. On n'a pas besoin d'exporter. En exportant, on tue aussi. On peut acheter ce qu'on n'a pas, mais il faut bien se rendre compte qu'en exportant nos produits agricoles, on tue les agriculteurs du Sud. Et c'est ça qu'il faut dire. Et c'est pour ça que 11-11-11 se bat tous les jours pour parler de ça. Et c'est ça qu'il faut faire prendre conscience aussi. Le problème n'est pas de produire, le problème c'est la répartition. C'est penser la logique de produire pour enrichir une certaine minorité, ça ne marche pas. Avec la richesse ne va pas ruisseler automatiquement sur les pauvres, ça ne se passe pas. Je veux dire, on a vu là ce qui s'est passé en Amérique latine, ça ne s'est pas passé comme ça. Pourtant, c'est ce qu'ils leur ont vendu pendant des années. Maintenant, ça commence un peu à changer, mais bon. Donc voilà, je me perds un peu avec tout ça. C'était quoi la question ?
Donc tout à la production et grossir, ça mène, oui. N'est pas la solution. Et du coup, vous remettez en question un peu l'utilité de ces aides.
Les aides devraient
vous
être
vous interroger
au salaire,
en
fonction de l'emploi.
Il y a beaucoup d'agriculteurs qui disent aussi, mais on ne veut plus de ces primes. Enfin, on aimerait revenir à un système sans primes. Voilà, ça nous enchaîne, ça nous étrangle.
Mais il va falloir mettre le prix. Parce que en même temps, comme on le dit à chaque fois dans le spectacle, est-ce que c'est cher une salade du supermarché ou pas? Elle coûte 80 centimes, 90 centimes, mais pour avoir poussé en 3 jours avec des gouttes d'engrais chimiques en hydroponie, ça devient très cher. Quand tu vois une salade à 1,50€ sur le marché, elle a poussé dans de la terre pendant un mois, tu as quelque chose dans ton ventre. Et je ne parle pas des problèmes de santé plus tard qui viendront si on doit rajouter ce coût-là à la nourriture industrielle. Si on doit rajouter le coût de la pollution des nappes phréatiques à la nourriture industrielle, si on doit rajouter le coût des algues vertes à la nourriture industrielle, si on doit rajouter le coût de la perte d'emploi, parce qu'une nourriture industrielle, par définition, doit être compétitive, pas beaucoup d'emplois, et utilise beaucoup de primes, donc ça coûte très cher à la société, et ça n'offre pas d'emploi. Donc, avec cette logique-là, on s'arrête tout. On fait des déserts dans lesquels on a envie de vivre, on va aux États-Unis. Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et c'est vraiment le monde, encore une fois, dans lequel on veut vivre, et je pense qu'on peut se réapproprier tout ça, mais pour ça, il faut l'expliquer aux gens. Ou en tout cas éveiller, parce que nous ça s'est pas fait tout seul, c'est parce que les agriculteurs nous ont parlé qu'on s'est intéressé de ça. Je ne connaissais quasiment rien à la politique avant de commencer. Et je me suis pris conscience que si tu t'occupes pas de tout ça, la politique va s'occuper de toi. Maintenant il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui me disent « moi je vote plus ». Moi je suis fataliste, monsieur. Ok, je comprends, ça te dégoûte, moi aussi ça me dégoûte. Tu fais ton action dans ton coin, t'as un pote anarchiste, t'as un pote agriculteur, tu fais machin, t'as un autre, tu t'en fous mais t'essaies de faire à ton échelle, bah c'est bien. Mais il n'y a pas un combat. Il n'y a pas des combats, il y a des solutions. Il y a plusieurs choses à faire. Consommer, voter, parler. On a plusieurs armes pour aller au combat. Et je pense qu'il faut attaquer par tous les actes et surtout se réapproprier parce que si 1 milliard, ne serait-ce que 1/11 de la PAC aller à l'agriculture paysanne, vous verriez comme ça montrer, donnerait des bouffées d'air et ce serait possible d'encourager avec de l'argent public. Mais moi, tant que mon argent va là-dedans, tant que mes impôts vont là-dedans, tant que le monde dans lequel je fonctionne, les intérêts pour qui il fonctionne vont là-dedans et que j'y participe, je veux mettre mon nez dedans. Et pour ça, il faut informer les gens qui peuvent être capables de faire quelque chose.
Et vous vous faites aussi un peu les porte-parole des agriculteurs qui, vous l'abordez dans la pièce, sont fatigués de lutter et n'ont pas toujours le temps non plus. Ils bossent comme des acharnés. Moi, j'étais allée à la manifestation pour le fromage de Herve à Liège. Ceux qui étaient là, c'était héroïque parce que c'était entre les traites, entre... J'ai pris conscience de cette de quelle place pour le militantisme aussi dans la vie d'un agriculteur.
Effectivement, comme vous le dites, c'est très difficile pour eux de se réunir, de se rassembler, de faire des réunions parce que soit ils sont seuls, soit ils trouvent un remplaçant, c'est pas forcément évident,
ça coûte
très cher.
T'as pas d'argent.
Donc quitter la ferme, enfin voilà, c'est et là avec les actions qui sont menées en ce moment, y en a qui passent les relais, etc. Mais c'est vraiment pas évident aussi donc de se rassembler.
À la base, c'est un milieu d'indépendance. Il n'y a pas tout l'héritage de la classe ouvrière, de la mobilisation, etc. Donc c'est difficile de se rassembler quand tu as des syndicats en plus qui ne font pas leur travail, qui ne mobilisent pas les gens quand ils devraient les mobiliser, etc., etc. Maintenant, ça gueule parce qu'ils ont été un peu loin, mais ils attendent toujours la dernière minute. Et donc, il y a une difficulté à se rassembler, mais on va être obligé. De toute façon, les agriculteurs ne font pas changer les choses sans nous. Hein. Consommateurs sans les autres métiers parce qu'on est tous... dans le même monde. Et c'est aussi réjouissant de pouvoir se dire qu'on est tous face à ça. Et moi, je me réjouis parce que je me dis que les choses vont changer. Si ce n'est pas maintenant, ce sera dans 3, 4, 5, 10, 20 ans. Mais je pense qu'on va voir les choses changer. De toute façon, on n'a pas le choix. Il n'y a plus de pétrole. Enfin, le monde, on sait bien qu'on ne pourra pas continuer comme ça, de toute façon.
Tu parles de métier et on vous entend parler avec beaucoup de passion de la cause agricole en général, on va dire. Charles, toi, j'ai dit au début, en tant que fils d'agriculteur, t'as jamais songé à toi-même devenir agriculteur ?
Mon petit frère reprend l'exploitation, enfin la ferme.
Ah, c'est pas une réponse.
Et mon autre frère s'est installé, donc il y a encore moins. Non, mais... Comme je dis toujours à mes frères, eux, ils ont leur boulot, c'est de maintenir ça en vie. Et ils prennent plaisir à le faire. Et c'est un combat énorme parce que sans eux, moi, je peux m'appuyer sur rien. Et moi, mon travail, c'est d'en parler. Eux aussi peuvent en parler, mais moi, c'est d'amener la parole et de me consacrer qu'à ça. De rendre les choses lisibles pour les gens. Notre travail avec Valérie et la compagnie Arrête ça, c'est de rendre les choses lisibles pour les gens. Le faire passer par l'humain, donc les toucher, et leur offrir une porte de sortie. Donc une grille de lecture, pour après se dire, ah tiens, quand on voit les images de manifestation à la fin du spectacle, ah oui, c'est eux qui m'emmerdaient dans les bouchons, tout ça. Ah putain, mais ça prend un autre sens. Et en fait, tout prend un autre sens. Et donc c'est rendre ça, le théâtre permet ça, je veux dire, on est avec les gens pendant une heure, on a le temps de montrer ce que c'est la réalité, les espoirs, les choses dures, et puis après on a un débat pour aller plus loin et pour mettre en place des initiatives. Et... Nous, avec Valérie, on voit que ça bouge de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure on va peut-être se faire arrêter par le traité transatlantique. Ça va être très dur une fois que le traité sera signé. Mais je pense qu'on est beaucoup plus nombreux qu'eux, et ça, on le dit souvent, et qu'on sous-estime la force qu'on a. Et les choses bougent, donc il y a beaucoup d'espoir. Dans la jeunesse, comme chez les vieux, ils se réveillent aussi, parce que moi, je n'y crois pas au conflit des générations. C'est les jeunes qui. Oui, les jeunes qui, mais nous, si on n'avait pas eu des vieux, respectons le mot, qui s'étaient assis à côté de nous pour nous expliquer comment fonctionnait le bazar, on n'y serait pas arrivé. Donc, c'est toutes les générations ensemble aussi. Après, les défis sont multiples. La pub, c'est des milliards. En face, ils sont très forts. Il y a des lobbies au Parlement européen. On doit se réapproprier notre démocratie au niveau européen. On le sait, au niveau national, au niveau local. On peut encore faire des choses. Donc, faisons-les dans la joie et la bonne humeur, parce que de toute façon, on n'a plus que ça à faire. Et les transitions, il faut les mettre en place maintenant, si on veut manger demain.
Et justement, il reste quelques minutes. Et pour finir cette émission avec justement le sourire aux lèvres, plus d'espoir que de désespoir, est-ce que vous avez en tête comme ça des initiatives locales ou plus globales qui ont fonctionné ou sont en train de marcher, en tout cas, laissent bon espoir d'une porte ? Une issue favorable.
Et menée peut-être par les fermiers eux-mêmes, parce qu'on a déjà parlé des paniers bio, tout ça, on connaît, mais comment vous en parlez dans la pièce, agriculteurs en transition, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qui est encourageant ?
Bon, la rencontre qu'on a faite il y a déjà plus d'un an maintenant avec Erwin Schopkers, qui est présidente de Fairbelle, un des meneurs de la grève du lait, donc à un moment donné, il est sorti de sa ferme. Et puis, il a eu envie de créer cette marque Fairbelle avec d'autres agriculteurs. Hein. Donc ça, c'est une initiative quand même. Enfin, c'est pas rien. Maintenant, ils sont 500 en Belgique. Et ils veulent peut-être, ils feront peut-être plus tard aussi une coopérative citoyenne. Donc, le principe, c'est à chaque litre de lait vendu, il y a 10 cents qui revient aux agriculteurs. Donc, ce qui leur permet, enfin, ceux qui font partie de la coopérative, d'avoir un revenu un peu plus juste. Donc, ça, c'est. Voilà, ce n'est pas un syndicat, mais une organisation indépendante. Ça, c'est une des initiatives. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Commune hors TTIP, par exemple. Mmh. Comment on s'ancre et on décide d'être contre le traité ? Bon, bah voilà, aller voir un élu local. Au niveau citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire ? Au niveau des parents d'élèves, une cantine qui pourrait faire une transition avec une nourriture locale. Il y a pas mal de choses en fonction des régions, en fonction de ce qui s'est fait. En France, il y a 400 communes qui sont hors TTIP. Faire venir des intervenants qui puissent en parler. Ouais.
Faire venir dans les écoles les intervenants, etc. Faire jouer des artistes, des pièces qui en parlent, comme celle-ci. Faire venir des artistes qui y sont engagés. Faire venir des conférenciers dans les écoles. Parce que quand on est uniquement au programme scolaire, essayer de fouiller un peu plus loin, voir ce qui est possible. Enfin, voilà, au niveau scolaire, au niveau associatif, au niveau éducation permanente, de manière générale. Terre en vue, mettre son argent dans des terres pour aider les agriculteurs, plutôt que le laisser à la banque et ça serve à la spéculation alimentaire ou l'armement, comme c'est généralement là où il y a de l'argent à se faire. Plutôt, en plus, ça rapporte plus rien. Donc, mettez votre argent dans terre en vue, aidez les agriculteurs à se maintenir ou quoi, ça restera votre argent. Vous participez juste à ça, ou Terre de Liens en France. Enfin, voilà, il y a les associations comme Onzonzonz à aider, il y a Greenpeace qui fait un travail extraordinaire sur l'environnement toute l'année, il y a Oxfam qui se bat énormément en Belgique aussi pour tous les agriculteurs, les paysans. Il y a tout un tas d'initiatives, il y a Rencontre des Continents, SOS Faim, toutes les associations qui sont ici, Esperanza autour de nous, là, que j'entends parler là dehors, qui sont des gens qui se battent toute l'année pour ça. C'est les soutenir aussi, choisir les politiques qui me permettent de maintenir ça aussi. Enfin, je veux dire, c'est un grand tout. Il n'y a jamais eu autant de gens qui parlaient de l'agriculture, il n'y a jamais eu autant de jeunes qui s'installaient, des jeunes qui créent de l'emploi, qui ne profitent pas des primes, qui veulent une autre agriculture. Et des agriculteurs qui ouvrent les yeux, il y en a tous les jours aussi. Et des agriculteurs, il y en a plein qui ne changeront pas et qui sera peut-être trop tard. Mais alors, on va changer le système quand même. Et c'est pas les gens, que la pièce, c'est pas les gens qu'on a voulu victimiser. C'est un système qui agit sur les gens. C'est la dialectique du système qui agit sur nous. Et nous, on montre le système, on fait portrait de ce système au public. Et après, on est là pour en parler. Et je pense que le débat, il se finira jamais. Nous, on va continuer de tourner. On va essayer d'aller dans les écoles, dans les grands théâtres. Là, on a une tournée prévue en sud de la France, dans toute la France. On va au sommet du climat. Il ne faut pas oublier le sommet du climat avec la COP21 parce que c'est très important. L'agriculture, c'est 50% des émissions à effet de serre dans une nouvelle étude d'Oxfam. Donc voilà, c'est énorme. Il faut vraiment en tenir compte, soutenir les médias sociaux, les petits. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et je tiendrai à faire juste le traité transatlantique. Allez en parler à vos mères. Et si vous dites que ça ne les regarde pas, ça les regarde parce que ça a touché leur commune, ils n'auront plus le choix, moins de pouvoir. Donc c'est faux. Et s'ils ne savent pas ce que c'est, il faut leur offrir un livre de Raoul Margenard, Le traité transatlantique, expliqué, les 46 articles, etc. Il y a plein de choses qui existent sur Internet. Le 7, je passe une annonce parce qu'un agriculteur m'a appelé juste avant le spectacle pour annoncer le 7 septembre le sommet extraordinaire de l'agriculture à Bruxelles. Ils vont bloquer. Voilà, et les agriculteurs vont se réunir et je pense que tout, même les gros syndicats qui ne bougeaient pas d'habitude vont s'y mettre. Il faut en profiter. Montrer notre soutien aux agriculteurs. Et de toute façon, le combat pour l'agriculture est bien plus large que l'agriculture, puisqu'il concerne notre système libéralisé, avec lequel il faudra en finir si on veut maintenir une vie digne et durable, en tout cas, sur notre continent, voire notre planète.
Il y a une série aussi d'actions. Donc, le 15 octobre, il y a des marches qui arriveront d'Europe à Bruxelles lors de la mobilisation initiée par l'Alliance des 19-20. Le 16, il y a plusieurs actions et débats qui auront lieu avec notamment une manifestation contre l'appauvrissement à Namur. Et le 17 après-midi, une manifestation européenne est prévue à Bruxelles avec d'importantes délégations internationales. Donc ça sera le 15, 16 et 17 octobre.
Voilà, c'était dès 19-20. Vous voyez, on est relais des assos. Hein. On y va, quoi, des mouvements sociaux. Voilà.
C'est ça, on dirait un vrai agenda militant en direct.
Les artistes aussi sont là pour ça.
Mais c'est ça. Mais en tout cas, c'était bien riche, bien dense, cette heure de Y'a pas que la musique avec vous. Et il y a beaucoup d'autres choses que la musique. Merci Charles Culot, Valérie Jiménez, merci beaucoup.
Pour les érudits qui voudraient lire un livre, pour avoir un peu d'espoir.
Il ne s'arrête jamais.
Lire l'Europe en temps de crise de Pablo Servigne. Voilà. C'est très, très intéressant. Il y a plein de pistes concrètes. Et comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne aussi. Mais voilà, c'est vrai que dans Nourrir l'Europe en temps de crise, il y a vraiment tout un mode d'emploi, enfin aussi de pistes concrètes au niveau citoyen par rapport au constat qui est réel du réchauffement climatique.
Voilà. Tableau serving, Nourrir l'Europe en temps de crise. Terre en vue aussi, on en a parlé, soutenir des terres plutôt que l'armement, pour reprendre les mots de Charles. Tu vois, j'ai retenu la leçon, là, on est ultra motivé. Yeah, on a recherché les batteries, www.terre-en-vue.be.
Il y a aussi les ouvrages de Sylvia Pérez-Vitoria, La riposte des paysans et les paysans sont de retour.
Il y en a encore une foule d'une, mais vous trouvez tout ça sur notre site internet arrêtesa.com ou sur notre page Facebook, n'hésitez pas, mais ça, vous relayerez. Merci à tous.
Arrêtesa.com. Merci beaucoup. Merci à Pascal à la technique. Merci à Manon pour le partage de micro. Et on se quitte en musique. On va encore faire plaisir aux agriculteurs puisqu'on va leur envoyer plein de soleil avec Chinese Man qui fait partie de la programmation et qui joue aujourd'hui samedi, demain dimanche,
qui clôture le festival.
Allons-y. Et c'est Racing with the Sun. On s'écoute ça et on se retrouve demain pour la dernière déjà de Y a pas que la musique.
À demain.
À demain.
You have power and money, but you are mortal. You know you cannot escape death, but immortality can be obtained. Can be obtained.
Racing with the sun.